Mon exposé s'intitule « L'amour humain comme texte prophétique » chez Rosemarie Barclay. C'est un texte, c'est un titre corbinien qui est extrait d'un texte d'Henri Corbin du troisième volume dans l'islam iranien. Dès les premières pages de cet important volume, la question de l'amour est posée. Corbin écrit, je cite, « La pratique même du soufisme suppose résolue la question de savoir s'il est possible qu'intervienne l'idée d'amour dans les relations entre Dieu et l'homme, entre l'homme et Dieu, entre amour divin et amour humain. » Alors, commençons par préciser les termes, parce que ce que dit Corbin ici n'a rien d'évident. Le terme « amour », par exemple, dans les différents domaines de la pensée religieuse musulmane, est très polysémique, n'a pas de caractère, pas de contenu précis. Du point de vue de la théologie musulmane, par exemple, il y a quand même une position fondamentale dans la théologie dans le sens du kalam, à savoir que les hommes sont radicalement incapables d'aimer Dieu. Nous ne pouvons aimer que ce qui nous est congénère, que ce qui est du même genre que nous. Et un homme ne peut pas aimer un être aussi infini et infiniment différent que Dieu. Donc, c'est d'ailleurs, on va retrouver la même proposition chez Rosemarie Barclay, l'homme ne peut pas aimer Dieu, et pour une raison dont je donnerai en conclusion, mais je vais déjà spoiler la conclusion, c'est parce que si les mystiques aiment Dieu, en fait, c'est Dieu qui insuffle leur fait grâce de l'amour que lui-même, dont lui-même est l'origine, pour lui-même, et non un amour d'origine humaine. D'autre part, toujours dans le domaine de la théologie, Dieu n'a nul besoin d'être aimé ou d'être aimé. Il est autosuffisant. Du coup, l'amour de Dieu envers les hommes n'est pas envisageable, car l'amour est un signe de manque. On aime ce dont on est privé. Donc Dieu est parfait, il ne peut pas aimer. Par contre, il est miséricordieux, ce qui est tout à fait différent. Dieu, rien ne change en lui. Par conséquent, si un homme mauvais commet des actes bons, Dieu ne va pas se mettre à l'aimer, parce que ça supposerait un changement en lui. Nous retrouvons ici l'idée de providence pré-éternelle, c'est-à-dire que Dieu aime des hommes qu'il a de toute éternité prédestinés à être aimés par lui. Alors, l'amour en mystique, si on commence par la mystique la plus ancienne, dans le soufisme des premiers siècles, on s'aperçoit que le terme « amour » apparaît, mais au fond, avec des exceptions tout à fait différentes. Il n'y a pas d'unanimité sur le sens à donner au terme, et d'ailleurs, plusieurs termes sont en concurrence. « Mahabba »,« Hub », voire « Rishq », »,« amour passionnel ». En gros, on peut distinguer trois sens différents, disons, à ce terme « amour » en mystique ancienne. Pour commencer, l'amour est défini, repéré comme un des stades de l'évolution mystique. Quand on entre en mystique, on commence par exemple par se repentir, on se tourne vers Dieu, puis on ressent de la crainte, on ressent de la dignité. Et donc, il y a une certaine série d'étapes qui est décrite dans une sorte de psychologie mystique, et l'amour constitue une de ces étapes. Pas forcément d'ailleurs la dernière, pas forcément l'étape ultime. Dans d'autres textes mystiques, on voit que l'amour est une sorte d'état permanent, le toile de fond de tout un itinéraire, que les mystiques, au fond, profondément, aspirent vers Dieu, connaissent un état d'aspiration vers Dieu que l'on appelle amour. Enfin, apparaît également l'idée que l'amour correspond à la nature profonde, à la fitra qui lie les saints, les wali, à leur Dieu, et c'est la marque de leur élection prééternelle. Et ça, cette idée d'élection prééternelle, on va revenir dessus, et noter tout de suite d'ailleurs que cette élection concerne les saints, et pas forcément tous les humains, bien sûr. Mais, dans cette étape ancienne, il faut noter que cet amour de Dieu est toujours de quelque manière lié à l'accomplissement de sa volonté, pour la raison bien simple que Dieu est conçu comme un être transcendant, éloigné, et on n'a pas prise sur cette divinité-là. La seule prise qu'on ait, c'est accomplir sa volonté, accomplir sa loi. Et c'est dans l'amour de la loi, de la charia, que l'on peut réaliser l'amour qu'on a pour son Dieu, pour son Seigneur. Mohassebi, qui est mort en 857, est un bon exemple de cette position. Il a un très bel éloge de l'amour pour Dieu, mais la raison qu'il donne, pourquoi faut-il obéir à Dieu? Eh bien, c'est parce que Dieu est Dieu, c'est tout. C'est parce que, étant Dieu, il mérite d'être aimé. Mais là où Mohassebi et les mystiques de son époque se démarquent du coup croyance sunnite ordinaire, comme l'avait remarqué Massignon avec perspicacité, c'est que sa démarche inclut une discipline qui vise à la transformation de la personne du chercheur. C'est-à-dire qu'à appliquer la loi, appliquer la charia, ce n'est pas simplement accomplir des gestes extérieurs, mais ce sont des gestes qui doivent induire un véritable changement, un véritable amour chez celui qui les pratique. D'autres contemporains, d'ailleurs, comme Zunnun, qui est mort en 859, aura déjà une conception un peu plus affinée, si je puis dire, de l'amour, expliquant que Dieu est comme un père. Et du coup, l'amour qu'on a envers Dieu est influencé par cette figure paternelle. L'amour pur, selon Zunnun, est doublement détaché du monde profane, parce que l'amour est issu de Dieu, ce que je disais à l'instant, il vient de Dieu lui-même, et ensuite il se dirige vers Dieu et remonte en totalité vers lui. On a déjà en germe ce qui va faire la notion de l'amour, donc soufisme classique. Mais à partir du 9e et du 10e siècle, vient une nouvelle vision de l'amour, celle à laquelle Christian Jambé faisait allusion tout à l'heure. Dans cette nouvelle acception, qui a notamment été portée par Al-Hallaj, par certains de ses contemporains, l'amour n'est pas seulement une qualité des actes humains, c'est-à-dire que Dieu ne pose pas simplement des actes bienveillants envers les hommes, c'est pas simplement parce qu'il leur donne l'existence et toutes sortes de qualités qu'on peut dire que Dieu est aimant, mais l'amour est une qualité de l'essence divine elle-même. Et c'est ce que donc professeur Al-Hallaj et après lui d'autres mystiques penseurs comme Ahmad Razali et puis la poésie lyrique de langue persane. Et cette vision entraîne l'expression d'un amour théophanique qui va s'épanouir dans les grandes œuvres de Ruth Behan Barclay, d'Ibn Arabi ou de Rumi. Donc ce que je me propose ici d'explorer rapidement, c'est l'exégèse de l'amour chez Ruth Behan Barclay à partir principalement de son commentaire coranique. Comment est-ce qu'à partir du texte sacré, Ruth Behan Barclay va expliciter cette notion d'amour donc, qui vient de Dieu pour retourner à lui. Quelques mots sur Ruth Behan. Sa vie n'est pas très très bien connue. Il est né en Persie en 1128 et il meurt à Shiraz en 1209. Nous disposons de certaines biographies, données biographiques, mais qui sont très hagiographiques, et puis de témoignages dans l'œuvre de Ruth Behan lui-même, et notamment son étonnant Kashf al-Asrar, dévoilement des mystères, qui est un récit de ses rêves et visions, où il raconte que, de façon très précoce, il était encore jeune adolescent, il a eu des visions du monde suprasensible, des anges, des prophètes et de Dieu lui-même, perçu visuellement. Devenu adulte, Ruth Behan Barclay va fréquenter certains maîtres soufis de son époque, et notamment Ibn Salbé, donc de la lignée qui remonte à Ibn Khafif, qui relaie la tradition hallajienne. Ruth Behan Barclay reçoit le manteau des vestitures, et après un certain nombre de voyages dans le Proche-Orient, revient à Shiraz et installa son couvent. Je passe sur son œuvre qui est très variée. Il a même écrit sur le kalam, sur le fiqh, sur le hadith. Je ici m'inspirerai principalement de son commentaire du Coran, Ajaïs al-Bayan, ainsi que son commentaire des paradoxes soufis. Alors, une première constatation s'impose dans les différents ouvrages de Ruth Behan Barclay. Il est question d'amour souvent presque à chaque page. L'amour est la manifestation de l'élection, comme il a été dit plus haut. Ruth Behan donne une description tout à fait extravertie, extatique, et il revendique la beauté comme un attribut divin essentiel, comme l'attribut qui manifeste précisément l'amour. Pour saisir cette notion d'amour théophanique, il faut revenir à la conception de Ruth Behan du monde, et notamment deux points de base sa doctrine. D'abord, l'idée de prééternité. Les commentaires exégétiques, enfin de Ruth Behrend, les commentaires coraniques pardon, de Ruth Behrend, en général, concernent la préexistence, en disant ce verset veut dire que cela existait avant toute chose, avant la création terrestre en quelque sorte. Car, précise-t-il, en réalité, rien n'existe si ce n'est l'éternité en Dieu. Tafraterat, Jos de Lam Nist. Une très grande partie donc existe de ce verset, c'est d'expliquer qu'au fond, les êtres possèdent leur seule réalité en Dieu parce que Dieu est le seul réel. Donc les hommes existent en tant qu'ils sont une pensée prééternelle de Dieu. Plus un homme est ancré dans la volonté de Dieu, plus il s'abandonne à lui, plus il existe. Donc, d'où l'importance de revenir à la racine prééternelle en Dieu. Dieu a produit tous les êtres à partir d'un esprit unique. Cet esprit, ce jour, est souvent qualifié d'esprit mohammedien. C'est l'esprit universel. Esprit universel que Dieu va insuffler dans l'argile d'Adam. Cet esprit universel est le miroir même de Dieu. Donc l'être humain, Adam, sera le miroir dans lequel Dieu va se refléter et se pluraliser. Un verset très connu, le verset 172 de la Sourate 7, l'idée qu'il y ait comme une sorte de dialogue entre Dieu et les âmes humaines, comme germe en quelque sorte, la descendance d'Adam en tant que germe. Dieu demandant « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» et les âmes répondant « Mais si, nous en témoignons. » Ce moment, si je puis dire, ce moment prééternel est un point essentiel pour l'exposé sur l'amour divin. L'amour divin se réalise avant même la création terrestre. Il est le son de la prédestination des saints et au fond, tout ce qui se passe dans l'existence d'un soufi est une affaire de rappel de l'état initial du pacte. C'est là un premier point. Une deuxième notion clé qui traverse toute l'œuvre de Ruth Behrend, c'est celle de l'équivocité, iltibas, l'amphibolie. Ce que veut dire Ruth Behrend, c'est que Dieu est inconnaissable et que Dieu ne peut, si Dieu se montrait en tant qu'il est lui-même à la création, cela serait insupportable aux hommes comme aux anges et cela les détruirait immédiatement. Donc, Dieu se fait connaître de façon indirecte et amphibolique. Dieu se révèle partout et il se masque en tout. Donc toute la création est un masque divin. Rien n'échappe à cela. Donc il y a la totalité du monde est un masque divin, mais rien ne dit l'ultime vérité sur lui. Rien de ce qui existe n'est vraiment ce qu'il paraît être. Et il en est ainsi de l'amour et des êtres aimés. L'amour est un appel divin, mais il ne faut pas s'y arrêter, parce que s'y arrêter serait tomber dans le piège. Et tomber dans le piège, c'est prendre l'apparence, donc la manifestation, le masque, pour Dieu lui-même, et cela c'est l'idolâtrie. Ruth Behrend cite dans ses commentaires coraniques l'exemple des chrétiens qui regardent Jésus, qui identifient une présence divine en Jésus, et ils ont raison, affirme Ruth Behrend, parce qu'il y a effectivement une présence divine en Jésus qui est le parfait miroir des attributs divins, mais là où ils se sont trompés, c'est qu'ils ont cru que Dieu lui-même, ils étaient arrivés à identifier Dieu, alors que Dieu est au-delà. Il y a certaines personnes qui traversent victorieusement l'épreuve de l'équivoque, ce sont les saints, ce sont les grands saints, mais ajoutons que les grands saints ont payé le prix pour arriver à cette vérité, car ils ont compris que l'amour divin est aussi amphibolique. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'eux-mêmes n'étaient pas véritablement l'objet de l'amour divin, car c'est Dieu qui s'aime lui-même à travers eux. Et donc ces personnes sont abolies en Dieu, elles n'existent que par lui. C'est l'effacement dans l'effacement dont il a été question ce matin. Je passerai rapidement sur le récit de Ruth Behrend et de la jeune chanteuse dont il est question dans le Jasmin des fidèles d'amour. Donc Ruth Behrend tombe éperdument amoureux d'une belle jeune femme et il avec qui il entre en contact. D'ailleurs, il dévoile son propre état intérieur et cet amour se développe, s'épanouit et devient transparent pour signifier véritablement l'amour divin. Corbin a laissé ici des pages définitives, disons, sur cet amour-là et sur l'identité entre amant, aimé et amour. Corbin explique donc comment l'amour est l'organe de perception de la beauté divine et comment a lieu la transformation de l'homme, sa naissance mystique, dans l'anéantissement de l'anéantissement. C'est toujours le troisième volume de En Islam Iran. Alors ceci est un apport d'Henri Corbin, je ne vais pas le répéter ici, ce serait vain, mais je voudrais revenir au Coran, au texte du Coran, et notamment à ce qui est dit sur la création d'Adam. En quoi, et un passage qui me paraît original, en quoi la création de l'homme apporte aux anges une nouvelle connaissance et une nouvelle dimension, celle précisément de l'amour. Les passages, il y en a plusieurs sur la création d'Adam, c'est le sourate 2, verset 30 et suivante, sourate 15, verset 28 et suivant. Donc Dieu avertit les anges qu'il va créer Adam. Ailleurs, il explique qu'il va créer Adam à partir d'argile, c'est-à-dire d'eau et de terre. Les anges s'interrogent en tout cas en disant « Mais comment veux-tu créer cet être imparfait, cet être qui va corrompre la terre, cet être qui sera transgresseur alors que nous sommes là et nous chantons, nous célébrons ta louange. » Et Dieu dit « Je sais ce que vous ne savez pas. » Et donc dans un autre passage du Coran, Dieu insuffle son esprit, son ruh, dans Adam et demande aux anges de se prosterner devant Adam. Donc reconnaissant, demandant aux anges de reconnaître une supériorité sur eux-mêmes. Enfin, donc là, il y a ici une énigme très profonde. En quoi l'homme d'argile était-il supérieur? Quel était cet esprit que Dieu a insufflé en lui? Alors, de nombreuses explications ont été proposées à propos de ce passage coranique évidemment crucial. Pour Jules Behan, nous avons un exemple typique de ruse divine. La ruse divine, donc, c'est le fait pour Dieu de se masquer, puisque Dieu ne peut pas se dévoiler aux créatures qu'il aime, parce que sinon il les détruirait. Donc, Dieu ruse. Il annonce la création d'un lieutenant sur terre, un khalifa. Il ne dit pas ce que c'est un khalifa. Il ne dit pas qu'il va insuffler l'esprit divin, son propre esprit, en Adam. Il n'explique pas qu'il va faire d'Adam le miroir de son essence et de ses attributs. Il n'explique pas qu'il va révéler en lui le secret de sa création, à savoir son amour. Dieu piège les anges, mais pour leur propre initiation. C'est donc une stratégie divine, une pédagogie en quelque sorte. Les anges, explique Rosberin, étaient dans l'illusion de la grandeur de leur propre service. Nous, disent-ils, nous te sanctifions, nous te rendons grâce, et donc ils se pensaient supérieurs à Adam. Et leur intelligence leur avait manqué, la courtoisie aussi, ils ont fait fausse route. Du coup, leur montrant que Adam avait une connaissance supérieure à eux, les anges eurent honte de leur admiration pour leurs propres actes. Ils comprirent que leur sanctification, leur liturgie qu'ils portaient à Dieu, n'avait aucune importance, que ça n'apportait rien à Dieu, et donc ils se prosternaient devant Adam, parce qu'ils reconnurent dans Adam, sur Adam, le manteau couvert de la peinture de Dieu. Donc, notez en passant que Rosbaum fait ici une critique indirecte de l'islam légaliste en disant il y a des gens qui pensent qu'accomplir les actions, les prosternations et tout ça, c'est ça la religion, ils s'enorgueillissent en disant nous sommes des vrais croyants, mais tout cela n'a pas d'importance. Enfin, oui, Dieu n'en a pas besoin, plutôt, dit Rosbaum, Dieu n'en a pas besoin. Les anges pensaient qu'ils faisaient des bonnes œuvres. Mais Dieu leur a appris que l'important, c'était les états spirituels, les ahwal. Rosbaran apporte une autre approche, une autre explication, et dans un autre passage. Il explique que les anges désiraient voir Dieu. Mais Dieu connaissait leur faiblesse, et Dieu savait que s'ils se laissaient voir aux anges, les anges trop faibles seraient anéantis. Dès lors, il créa Adam avec sa main, il fabriqua à son image, Dieu, l'image de Dieu, et il déposa en lui les miroirs de son esprit. Et lorsque les anges regardèrent Adam, le Dieu très haut leur apparut. Donc là, Adam sert de support théophanique, en quelque sorte, pour que les anges aient la vérité, puissent enfin contempler la vérité. Voilà, donc, pour résumer, Schlussbach suggère qu'il y a eu donc deux temps à cette initiation des anges. Lors de l'annonce de la création à partir d'argile, les anges ne comprirent pas, et donc, une fois que tout, ils se furent prosternés, donc ils ont compris, et Adam est devenu leur qibla. Adam est devenu la direction de leur prière. Donc ça indique que l'être humain, en tout cas le saint, est non seulement le centre sur la terre, mais également le centre de la liturgie angélique. Et deuxième point, Dieu, par sa miséricorde, dévoila aux anges la véritable mission d'Adam, habillé de lumière, et les anges furent extasiés, leur amour furent avivés, leurs égaux abaissés, et ils tombèrent prosternés dans l'amour. De Hob, l'amour, et Shor également. Donc, avec des termes très forts pour dire que les anges, brusquement, ont compris ce que c'était cette passion amoureuse, en quelque sorte, qui les a saisis juste à ce moment-là, grâce à Adam. Voilà, donc ainsi les anges ont compris un point essentiel, à savoir que Dieu les avait créés pour l'adoration. Mais Dieu ne s'était pas satisfait de leur adoration. Dieu ne voulait pas simplement être adoré. Dieu a voulu créer pour l'amour, pour le mahabba. Et c'est ce dessein cosmique de l'amour qui fait qu'il a envisagé de donner vie à Adam et d'en faire son lieutenant sur terre. En effet, dit Rosbaran, dans le monde entier, il n'y avait aucun beau témoin, Shahad Jamil, que Dieu aime, qu'il est revêtu de ses attributs, qu'il a aimé du fait de ses attributs. C'est pour cela que Dieu décida de créer Adam, pour créer un support adéquat à son propre amour, c'est-à-dire un support sur lequel Dieu puisse s'aimer lui-même. Puisqu'en effet, Adam était pourvu des attributs divins, il était aimable, puisque Dieu voyait en lui-même ses propres qualités se refléter. Et c'est ainsi qu'il a insufflé en Adam son esprit, qui, je le rappelle, était l'esprit premier, l'esprit mohammedien. Et à ce moment-là, donc, une fois que toute la prosternation eut lieu, Adam se mit à enseigner aux anges et devint leur professeur, leur oustad. Qu'est-ce que Adam enseignait aux anges ? Le secret de l'amour et le secret de la connaissance. Donc, on pense que les anges ont souvent l'image d'être fixes, figés dans leur être. Et bien là, Schlussbach indique que les anges, eux aussi, évoluent, que les anges, spirituellement, peuvent grandir, progresser. Et notamment, donc, les anges ont un ego. Et bien là, l'existence d'Adam permet à leur ego progressivement d'être diminué, voire de disparaître. Et donc, ils sont éveillés de leur illusion, à savoir que l'adoration ne compte pas aux yeux de Dieu, ou du moins n'ajoute rien aux yeux de Dieu. Voilà, donc c'est dans ce sens que le titre donné à cette intervention, à savoir l'amour humain comme texte prophétique chez Schlussbach, à son sens, mais donc les anges peuvent aborder maintenant leur destin comme on peut interpréter, disons, leur destin comme rentrant dans un dessin beaucoup plus vaste, celui de l'amour divin. Et donc le titre de ce colloque aussi, amour humain, amour divin, prend sens pour les anges aussi, même si on s'en doute. Schlussbach ne s'adresse pas spécialement aux anges, il a écrit son commentaire coranique pour les hommes et notamment pour ses propres disciples. Enfin, je terminerai par signaler le contre-exemple des anges, à savoir Iblis, Satan. Dans les passages du Coran que j'ai évoqués, Satan refuse de se prosterner devant Adam, il est maudit par Dieu et il est convenu en quelque sorte que jusqu'à la fin du monde, il tentera les hommes pour essayer de les faire glisser vers le péché, la transgression. Pourquoi Iblis a-t-il refusé d'obéir à Dieu ? Schlossbaum donne plusieurs réponses, d'ailleurs qui n'ont pas forcément d'unité entre elles. D'une part, il dit « Iblis, Satan, était voilé par la rigueur divine. Il était créé avec des pour servir des attributs divins de « qahash », à savoir de rigueur, de violence, ce qui est un des attributs divins, le « qahash », Dieu, le violent. Et il était issu de l'élément feu, il s'est dit dans le Coran, alors que Adam, lui, était créé d'argile, soit de terre et d'eau. La terre et l'eau, explique Rosbaran, sont des attributs de bienveillance. Le feu, c'est un élément de violence. Or, dit Rosbaran, le prophète aurait dit, la miséricorde, la rahma, qui est la caractéristique de la terre et de l'eau, la miséricorde précède la colère. Bref, Iblis était aveuglé, il ne voyait que la colère, il croyait que la colère était l'attribut divin principal, et il ne put voir sur le visage d'Adam ce que virent les autres anges, qui, eux, étaient devenus amoureux du visage d'Adam. Si Iblis avait été clairvoyant, dit Rosemarin, il aurait mangé la terre foulée par les pieds d'Adam. D'autre part, dans un autre passage, Rosemarin suggère, alors là on trouve de nouveau un thème halagien, que la prosternation devant Adam était pour Iblis une simple épreuve. En effet, Iblis disait « on ne peut se prosterner que devant Dieu ». Donc, Dieu demande aux anges de se prosterner devant quelqu'un d'autre que lui. C'est un piège, c'est une épreuve. Et moi, je ne vais pas lui obéir pour montrer que je suis fidèle à lui. Donc, il pensait être sorti victorieux de l'épreuve, mais il était dans l'erreur. Car en fait, il n'y a que Dieu. Donc, il pensait que je ne me prosterne pas devant Adam, je me prosterne que devant Dieu. Il s'est trompé parce qu'il n'y a que Dieu, il n'y a pas Adam différent de Dieu. Ma huwa illa huwa. Et Dieu est à la fois le guide et l'objet de la voix. Dieu est à la fois le sens et le signifié. Donc, Iblis voulut connaître la bienveillance divine en refusant de se prosterner devant un autre, et il s'enfonça en fait dans la violence divine, et au lieu d'accepter les deux ensemble, la violence et la bienveillance, il s'en tint juste à un des deux attributs. Schlossbaum dit ailleurs que l'Iblis en fait n'adorait que lui-même, il n'acceptait pas le fond même de la révélation coranique, à savoir que Dieu seul est, il n'existe réellement que Dieu. Et donc, il refuse de s'abolir lui-même, il refuse de s'effacer lui-même en se prosternant, et il se compare à Adam, disant « moi je suis fait de feu, lui il n'est fait que de vulgaire argile ». Et donc, de ce fait, comme il refuse son effacement, il se condamne, et il ne regardait pas Dieu. Il avait un double regard. Un regard était vers Adam, qu'il jalousait, l'autre regard vers lui-même, parce qu'il s'admirait lui-même, alors que le vrai regard se porte vers Dieu uniquement. Voilà. Ou encore, dernière explication proposée par Rosemarin, Iblis pensait que l'adoration, c'était simplement s'incliner, se prosterner, ce qui est le geste de la prière rituelle. Et c'est ainsi qu'agissent les adversaires des Aouliyat. Rosemarin, qui avait connu pas mal de brimades et de persécutions dans sa ville de Shiraz, dit c'est comme ça que les juristes bornés pensent que. Et c'est pour ça qu'ils ne reconnaissent pas la supériorité des maîtres soufis. Bref, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces exposés de Rosemarin ? L'essentiel à retenir, c'est que pour Rosemarin, l'amour, c'est véritablement l'amour de Dieu pour lui-même. C'est Dieu qui vraiment se suscite un amour pour son propre être. Et au-delà de l'amour théophanique, au-delà de l'équivoque suscité par les formes sensibles, il n'existe que ce seul élan de Dieu vers lui-même. Du coup, comme l'écrivait Christian Gerbet à propos de Rumi dans son rapport à Shams de Tabriz, L'amour, en ce second moment de l'expérience théophanique, conduit à s'absenter de soi-même. Donc l'amant est voué à disparaître, ou il doit accepter de disparaître. Souvenons-nous de la parabole du papillon proposée par Hallaj au début du livre des Tawassim. Donc il y a des papillons, des phalènes, des papillons de nuit qui s'approchent de la flamme de la lampe dans la nuit. Ils sont fascinés par la lumière, mais ils n'osent pas trop s'approcher. Alors, au bout d'un certain temps, certains se rapprochent de plus. Il fait trop chaud, mais ils ont peur de la chaleur. Donc, même ceux qui se rapprochent n'osent pas aller plus loin. Et puis, il y a des papillons qui vont plus loin, qui se précipitent dans la flamme. Et c'est ceux-là qui connaissent l'anéantissement, l'effacement et l'effacement de l'effacement. Et de fait, d'ailleurs, quelle preuve d'amour supérieur peut-on fournir que d'accepter sa propre disparition en tant que moi ? Je vous remercie pour votre attention.